C'est vrai qu'on a l'esprit plus clair après avoir fait remuer le sang. Voilà, je vais donc vous parler de la manière dont l'option préférentielle pour les pauvres a été comprise et reçue dans la tradition de l'Église. D'abord, l'origine de l'expression. Vous savez que l'expression « option préférentielle pour les pauvres » ou, une autre manière de le dire, « option prioritaire pour les pauvres » provient de la théologie de la libération latino-américaine. Elle fait désormais partie, depuis le pape Jean-Paul II, de l'enseignement social de l'Église. Et si vous avez la curiosité d'aller voir le site « Doctrine sociale catholique » du CERAS, vous verrez que l'option préférentielle pour les pauvres est placée parmi les 7 principes fondamentaux de la doctrine sociale. À côté de, je pourrais faire une interrogation, à côté de la charité, de la justice, de la solidarité, de la subsidiarité, de la destination universelle des biens et la recherche du bien commun. Ce sont les rencontres de la conférence latino-américaine et des Caraïbes, le CELAM, d'abord à Medellín en 1968 et puis à Puebla en 1974, qui ont forgé cette expression. On se rappelle que, cependant, déjà au Concile, et un peu avant, le pape Jean XXIII avait indiqué que l'Église est et se veut l'Église de tous, l'Église des pauvres, avait-il dit. Et je vous rappelle aussi qu'il y avait, au moment du concile, un groupe de pères conciliaires qui s'étaient réunis sous la direction de Don Helder Camara et qui avaient rédigé un texte important sur l'Église au service des pauvres qu'on a appelé le pacte des catacombes. Pour les théologiens latino-américains et l'épiscopat de ce continent, il s'agissait de prendre position dans un contexte marqué par la présence massive de la pauvreté. Étienne l'a rappelé tout à l'heure, c'est un phénomène massif en Amérique latine, mais aussi marqué par des pouvoirs politiques dictatoriaux qui, en collusion avec les multinationales, exerçaient une grande violence à l'égard des mouvements populaires et des pauvres en général. Je reprends l'expression que donne Alain Durand dans un de ses articles, en décrivant ce que c'est que cette démarche des théologiens latino-américains. Dans ce contexte, dit-il, il n'apparaissait plus possible à un certain nombre de théologiens et de pasteurs de penser la foi chrétienne sans l'articuler sur un comportement, une pratique sociale et politique qui favorise la libération des pauvres. Ils étaient conduits à relire la Bible à partir de la situation des pauvres, une pratique devenue habituelle dans les communautés ecclésiales de base. Peu à peu, s'est construit un discours théologique donnant une place centrale aux pauvres dans la compréhension de la foi, orienté simultanément vers la construction d'une église des pauvres et un changement des structures sociales oppressives. Le courant de la théologie de la libération, dit-il, a fait ainsi de l'option préférentielle pour les pauvres l'axe central de sa réflexion. Donc, vous voyez la démarche des théologien latino-américain, c'est vraiment réagir face à une situation d'oppression, de pauvreté, et faire de l'Église l'Église des pauvres, et en même temps désirer changer les structures qui sont les causes de cette pauvreté. Quelle a été la réappropriation romaine et ecclésiale de cette expression? Comme on le sait, ça n'a pas été simple. Le magistère romain a d'abord réagi de manière négative par deux documents de la Congrégation pour la doctrine de la foi, présidés à l'époque par le cardinal Ratzinger, l'un très critique en 1984, l'autre plus constructif en 1986. Je me rappelle le père Jean-Yves Calvez qui me disait, quand le pape Jean-Paul II a lu la première, il a trouvé que c'était trop négatif, il fallait en réécrire une autre. Voilà, je pense qu'il avait compris quelque chose d'un enjeu important. Quels sont les reproches qui étaient faits à la théologie de la libération à l'époque? D'abord, on pourrait dire le recours aux outils de l'analyse marxiste, qui risquait de faire adopter son idéologie, son athéisme. Et d'autre part, une approche économique et politique de la réalité, qui risquait de réduire la foi à une perspective de libération temporelle. Voilà. connaît bien ses reproches. Plus profondément, je crois, il y avait aussi deux styles de théologie. Hein. Une théologie plus inductive pour les théologiens de la libération qui essayaient de partir de la réalité sociale pour théologiser précisément. Alors que la théologie romaine classique partait plutôt des données de la foi pour les appliquer à la réalité. Donc c'était plutôt une démarche déductive. Donc évidemment, ces deux façons de faire ne correspondaient pas. Par ailleurs, je pense que dans la théologie classique, on avait du mal à prendre en compte les causes structurelles de la pauvreté. Je vous rappelle, Don Helder Camara disait « Si je donne de la nourriture à une personne qui a faim, on dit que je suis un saint. Si je demande pourquoi cette personne a faim, on dit que je suis un communiste. » Les questions, la prise en compte des causes de la pauvreté est entrée tardivement dans la réflexion ecclésiale. Il faut le reconnaître. Car la pauvreté a longtemps, dans la théologie du Moyen-Âge par exemple, été considérée comme une condition naturelle. Il y avait les pauvres et il y avait les riches, et c'était leur destin en quelque sorte. Alors le climat a peu à peu changé, et je pense que l'engagement des églises latino-américaines pour la promotion, la défense des pauvres, parfois allant jusqu'au martyr, rappelez-vous, Monseigneur Romero et plein d'autres, a été progressivement reconnu comme une expression authentique de la foi et un élément essentiel de l'expression de cette foi. Et Jean-Paul II, d'abord, au cours de ses voyages en Amérique latine, il faut relire ses discours qui sont très forts, et puis dans ses encycliques, réintègre pleinement l'expression d'option préférentielle pour les pauvres dans son enseignement, et affirme avec force que cette option, alors il dit aussi amour préférentiel pour les pauvres, il dit les deux, est là une option, dit-il, une forme spéciale de priorité dans la pratique de la charité chrétienne, dont témoigne, dit-il, toute la tradition de l'Église. C'est dans Sollicitudori Socialis, en 1987, qu'il décrit ça. Vous savez que cette encyclique a été écrite pour les 20 ans de Populorum Progressio, donc sur le développement des peuples. Il donc reprend cette expression et la fait sienne, on peut dire. L'option, c'est une option qui concerne la vie de chaque chrétien en tant qu'il imite, dit-il, la vie du Christ, mais elle s'applique également à nos responsabilités sociales et donc à notre façon de vivre, aux décisions que nous avons à prendre de manière cohérente au sujet de la priorité et de l'usage des biens. Fin de citation. Vous voyez que pour Jean-Paul II, l'option préférentielle pour les pauvres est liée à la destination universelle des biens, donc qui est un des principes de la doctrine sociale. Et dans cette même encyclique, dont le thème, je rappelle, est le développement des peuples, il dénonce les structures de péché. C'est pas un hasard, je pense, si on retrouve les deux au même moment. C'est-à-dire, il intègre lui aussi cette dimension de prise en compte des causes structurelles de la pauvreté dans son discours. Pour le vrai développement des personnes et des peuples, il faut lutter contre les structures de péché, et pour cela, nous avons, dit-il, besoin de la vertu de solidarité. C'est d'ailleurs. Alors, après Jean-Paul II, Benoît XVI a repris le même chemin, en, comme on le sait, Benoît XVI, un théologien, donne plus d'argumentation et de fondement théologique à cette option, en disant, je le cite, « L'option préférentielle pour le pauvre est implicite dans la foi christologique en ce Dieu qui s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir de sa pauvreté. » Il a dit ça dans la troisième assemblée du CELAM à Aparecida en 2008. Il y a eu des discours de Jean-Paul II à Puebla, et ensuite donc à Aparecida en 2008. Aujourd'hui, le pape François, on pourrait dire, par son insistance quasi quotidienne sur la prise en compte de la situation des pauvres, sa pratique de l'accueil à leur égard, sa dénonciation fréquente d'un système économique source d'exclusion et de mort, il semble lui-même incarner cette option pour les pauvres. Et d'ailleurs, les théologiens de la libération l'ont bien compris. Rappelons son souhait d'une église pauvre et pour les pauvres, et son appel à mettre l'église en mouvement de sortie de soi, de mission centrée en Jésus-Christ, d'engagement envers les pauvres. Il dit ça dans Evangelii Gaudium. C'est de notre foi, dit-il, que découle la préoccupation pour le développement intégral des plus abandonnés de cette société. Dans le voyage, je vous ai un peu décrit comment l'Église, peu à peu, s'est appropriée cette option préférentielle pour les pauvres, jusqu'à devenir aujourd'hui un thème central, finalement. Alors, la question, c'est qui sont les pauvres? De quoi parle-t-on? Et quelle est la justification théologique de cette option? D'abord, qui sont les pauvres? Pour Gustavo Gutiérrez, donc un des fondateurs de la théologie de la libération, on appelle pauvre, dit-il, celui qui est socialement insignifiant, la non-personne, le socialement invisible. Et parfois, il cite un roman célèbre péruvien où le personnage principal est un Indien qui est devenu invisible. Voilà. Alors, il est socialement invisible, mais en fait, les gens ne le voient pas. C'est comme s'il était vraiment invisible. Vous voyez ? Et la société, dans son ensemble, ne tient pas compte de lui. Voilà. Il navigue au milieu du monde, et en fait, personne ne se soucie de lui. Voilà. Le pauvre, c'est celui qui ne compte pas et qui est laissé pour compte. Alors, en Amérique latine, bien sûr, c'est la majorité des paysans pauvres. Ce sont aussi les minorités, mais qui sont finalement nombreuses, les Indiens, les Noirs, les femmes. C'est une réalité qui n'est pas seulement économique, mais aussi sociale et culturelle. Dans les textes du magistère, on en parle comme ceux qui souffrent de conditions inhumaines en matière d'alimentation, de logement, d'accès aux soins, d'éducation, d'emploi, de liberté de base. Donc vous voyez qu'il s'agit d'abord d'une privation de biens matériels, sociaux, mais aussi culturels, qui porte atteinte à la dignité de la personne. Les pauvres, dans les différentes dimensions de la pauvreté, ce sont, je cite Jean-Paul II, les opprimés, les marginaux, les personnes âgées, les malades, les petits, tous ceux qui sont considérés et traités comme les derniers dans la société. Donc vous voyez que la pauvreté, dans ces deux, aussi bien dans la théologie de la libération que dans les textes de l'Église du magistère, ne se limite pas à une pauvreté matérielle. La dimension sociétale de la pauvreté est essentielle. Les pauvres sont les derniers. Et Benoît XVI parlait, lui, de marginalisation, de pauvreté relationnelle, morale et spirituelle. Intéressant comme expression. Pauvreté relationnelle, morale et spirituelle. C'était dans son message pour la Journée mondiale de la paix en 2009. Parfois sont nommées aussi les femmes victimes de discrimination, de violence, les enfants, les sans-terre, les sans-abri, les migrants, les réfugiés, les minorités ethniques. Vous voyez qu'il y a une assez grande diversité malgré tout. Et quant au pape François, il note parmi les nouvelles formes de pauvreté, à nouveau les sans-abri, mais aussi les toxicodépendants, les réfugiés, les populations indigènes, les personnes âgées, les femmes et les enfants à naître, dans Evangelii Gaudium. Vous voyez, il y a une assez grande palette, on pourrait dire, de tous ceux qu'on peut considérer comme finalement laissés pour compte, les derniers des sociétés. Alors, sachant que les derniers, c'est autant une dimension matérielle qu'une dimension culturelle, sociale. Quelles sont les justifications théologiques de cette option préférentielle pour les pauvres? Elles sont nombreuses, j'en reprends que quelques-unes. Comme on l'a déjà noté, c'est d'abord, cette option pour les pauvres, c'est une imitation du Christ lui-même. Ce que dira plusieurs fois Jean-Paul II. Ce Christ qui lui-même a porté une attention privilégiée pour les petits et les pauvres, hein, Alain, Laurence et Claudine nous le rappelaient hier dans leur texte. Par ailleurs, si l'Église montre cet amour préférentiel pour les pauvres et les sans-voix, c'est parce que le Christ s'est identifié à eux de manière spéciale, comme le montre l'épisode de Matthieu 25. « Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Jean-Paul II en parle dans Ecclesia Ignatia. La personne du pauvre est donc une présence spéciale du Fils de Dieu qui impose à l'Église une option préférentielle pour eux, dit Jean-Paul II dans l'encyclique sur le nouveau millénaire. Les pauvres, par ailleurs, sont les premiers à qui est annoncée la bonne nouvelle du royaume. On voit ça dans l'Évangile, hein, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Enfin, comme l'indique Benoît XVI, je l'ai déjà dit, cette option s'enracine dans la foi en un Dieu qui s'est fait pauvre lui-même, en Christ, afin de nous enrichir de sa pauvreté. Et cette inversion sur laquelle insiste beaucoup Benoît XVI. Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Le pape François, quant à lui, évoque d'autres fondements bibliques, en particulier dans l'Ancien Testament, en insistant sur la révélation d'un Dieu qui voit la misère de son peuple. Là, il reprend des thèmes qu'on retrouve dans la théologie de la libération. Un Dieu qui voit la misère, qui écoute le cri des pauvres, et qui fait du peuple de Dieu un instrument pour secourir ceux qui sont dans la détresse, dit-il dans Evangelii Gaudium. De manière générale, cette préoccupation préférentielle pour les exclus et les démunis est, dit-il, une exigence essentielle de l'annonce de la foi. Donc c'est lié à l'annonce de la foi. Je le cite dans Evangelii Gaudium au numéro 186. De notre foi au Christ qui s'est fait pauvre et toujours proche des pauvres et des exclus découle la préoccupation pour le développement intégral des plus abandonnés de la société. Vous voyez que cette option constitue donc une vérification du témoignage de la foi. Alors, pour terminer, quelques caractéristiques de cette option pour les pauvres. En premier lieu, on pourrait dire que si cette option est prioritaire, elle n'est pas pour autant exclusive ni discriminatoire à l'égard d'autres groupes, ce que rappellera Jean-Paul II. Donc elle n'implique pas un rejet ou un désintérêt à l'égard de ceux qui ne seraient pas pauvres, mais elle souligne une priorité, le fait que les pauvres ont droit à la première place dans la préoccupation des croyants. Une deuxième caractéristique, c'est qu'une telle option n'est pas réservée à quelques-uns, mais qu'elle concerne la vie de chaque chrétien, dira aussi bien Jean-Paul II que le pape François. Il s'agit d'une mission qui n'est pas réservée seulement à quelques-uns. Personne, dit le pape François, ne peut se sentir exempté de la préoccupation pour les pauvres et pour la justice sociale. Gustavo Gutiérrez rappelle que le mot « option » en français n'est pas très bon, parce que, en espagnol, « option », ce n'est pas une option au sens français, c'est un choix déterminé. Donc, faudrait traduire le choix prioritaire pour les pauvres, et non pas une option comme si c'était optionnel. Hein ? Non, pas du tout. Donc cette forme de charité n'est pas facultative. Voilà. Troisième caractéristique, il faut noter que le pape François, s'il utilise pour l'option préférentielle pour les pauvres et dans son discours en général beaucoup les mots de solidarité, de justice et de charité, il donne une place toute particulière au terme miséricorde. C'est vraiment caractéristique de son discours, parce que la miséricorde est pour lui le centre de la révélation. Il l'a rappelé à l'occasion de l'année jubilaire. Et on peut dire que c'est intéressant parce que cette insistance sur la miséricorde donne au choix préférentiel pour les pauvres une connotation de tendresse, on pourrait dire de proximité avec les personnes en détresse. Voilà, ça va de pair, on pourrait dire, avec cette attention constante du pape à la vie concrète des personnes. Vous savez, il fait ça aussi en disant pour les familles, pour les jeunes, il faut rejoindre les familles là où elles sont, dans la situation où elles sont. Eh bien, pour les pauvres également. Donc le souci de rejoindre les personnes dans leur réalité et aussi à l'attention qu'il porte aux initiatives locales des pauvres eux-mêmes. Voilà. Ils sont aussi des acteurs. Par exemple, dans Laudato Si, quand il parle de l'écologie, il développe aussi l'expérience qu'ont les pauvres de la manière de vivre et de lutter contre la pollution, la dégradation de l'environnement. Autre caractéristique, cette option préférentielle présente différents aspects et engage chacun à sa manière. Si elle suppose des gestes quotidiens de solidarité, elle cherche aussi à résoudre les causes structurelles de la pauvreté. Et donc il y a aussi une dimension sociale et une dimension politique. Il s'agit, dit le pape, de renoncer à l'autonomie absolue des marchés, de la spéculation financière, et d'attaquer les causes structurelles de la disparité sociale. Il est question, dit-il ailleurs, de changer ses styles de vie, de changer les modèles de production et de consommation, les structures de pouvoir établies qui régissent aujourd'hui les sociétés. Cette option, donc, concerne donc à la fois les œuvres de miséricorde, qu'il rappelle, dans ses différentes formes, mais aussi les aspects culturels et politiques en vue d'une modification des structures économiques et sociales qui produisent la pauvreté. Enfin, dernière note, qui vient aussi du pape François, c'est que cette option est une catégorie théologique qui a une forte dimension spirituelle, dans un double sens. D'un côté, il s'agit de porter une attention spéciale à la dimension spirituelle et religieuse de la vie des pauvres, car, dit-il, il n'y a pas pire discrimination à leur égard que le manque d'attention spirituelle. Il dit ça dans Evangelii Gaudium, numéro 200. Et d'un autre côté, cette option pour les pauvres est pour nous une source d'évangélisation. Voilà, pour ceux qui n'ont pas connu la misère. Je le cite dans Evangelii Gaudium, numéro 198. La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences et à les mettre au centre du cheminement de l'Église. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leur cause, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre, et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Alain, pour cet exposé.